Boat People, ou comment reconsidérer les migrations présentes à travers la mémoire des migrations passées. C'est un des propos de la pièce de Marine Bachelot Nguyen que l'on a pu voir au Théâtre du Nord. L'autrice metteuse en scène est vietnamienne par sa mère. Elle a eu à cœur de revisiter l'histoire de la migration de ces milliers de Vietnamiens, laotiens et cambodgiens, obligés de fuir le régime communiste dictatorial. Elle s'appuie pour cela sur les témoignages qu'elle a recueillis, sur les archives et sur les journaux télévisés de l'époque que l'on entend et que l'on voit dans la pièce elle-même. Et cette pièce documentaire, qui commence en 1979, au XXe siècle, résonne utilement avec les migrations du premier quart de notre XXIe siècle.
Qu'est-ce qui fait que tu fuis ton pays? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux plus rester?
Qu'est-ce qui fait que tu es prêt à quitter ta maison, ton ciel et ta terre, à risquer ta vie sur la mer, jeter ton corps dans l'inconnu absolu pour partir? Partir là où l'herbe te semble plus verte, l'avenir plus radieux?
C'est quoi la nécessité, le désir impérieux qui te pousse à traverser les frontières? Aujourd'hui, demain, hier?
Qu'est-ce qui fait que tu grimpes dans un bateau de fortune, une embarcation fragile où d'autres se serrent avec toi sur les vagues hasardeuses de la mer de Chine après 1975?
Qu'est-ce qui te pousse et qui te guide?
Tu viens du Laos, du Cambodge, du Vietnam. Ton pays a été colonisé par la France pendant 100 ans. Il fait partie de l'ex-Indochine. Toi et les tiens ont lutté contre les colons peut-être, ou bien travaillé avec eux. Après la guerre d'indépendance, en 1954, les Français sont partis.
Mais, en pleine guerre froide, l'Occident tient à garder le contrôle. Dès 1955, les Américains s'engagent et posent leurs pions soutenant le régime du Sud-Vietnam. Bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest. Vietnam du Nord, communiste, contre Vietnam du Sud, capitaliste. Guérilla de terrain contre avions, bombes et chars américains.
Aux États-Unis, en Europe, la jeunesse proteste et crie dans les manifs.
Au Vietnam. US go home. Make love, not war.
Le Vietnam, que tu sois d'accord ou pas, devient symbole planétaire de résistance anti-impérialiste.
Et puis, après des années de guerre civile, c'est le printemps 1975. Le 17 avril, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh, capitale du Cambodge.
Le 30 avril, c'est la prise de Saigon par l'armée du Nord-Vietnam communiste.
Fin de la guerre du Vietnam. Les Américains sont battus et chassés, réunification du pays. Les vainqueurs l'appellent libération de Saigon. Toi, tu fais partie de ceux qui disent que c'est la chute.
Ngai, maintenant, le jour où on a perdu notre pays.
Ton Vietnam, à toi, ne sera jamais réunifié.
Marine Bachelot Nguyen, on a eu le plaisir de découvrir votre pièce, votre texte et la problématique que vous posez. Alors la première question, c'est quand même pourquoi aujourd'hui parler de cette migration-là, celle de l'ancienne colonie indochinoise française.
Vous dites le mot colonie indochinoise et effectivement dans les reportages qu'on utilise dans le spectacle qui date de 1979-80, on entend beaucoup ce mot Indochine alors que il est clair que le Vietnam, le Laos et le Cambodge sont des États indépendants depuis 1954. Mais effectivement, dans l'esprit français, il y a toujours cette référence à l'Indochine, à cet empire colonial perdu. Et effectivement, moi qui travaille sur la mémoire postcoloniale, dans une démarche assez décoloniale, dans une démarche de connaissance et de digestion de toutes ces histoires qui sont parfois sombres, honteuses, complexes, mais j'ai l'impression qu'on a besoin pour comprendre la France d'aujourd'hui, pour comprendre la France de demain, de connaître cette histoire, ces histoires. Et comme il y a cette idée que la population originaire du Vietnam, du Laos, du Cambodge ou d'autres pays d'Asie est plutôt discrète, effacée, c'est des histoires qu'on ne connaît pas beaucoup. Moi, étant d'origine vietnamienne par ma mère, ça me semble important de travailler cette histoire, de moi-même mieux la connaître, mieux me l'approprier et de la partager avec le public. On a fêté en avril dernier, ça a été les 50 ans du 30 avril 1975, donc prise de Saïgon par l'armée communiste nord-vietnamienne, réunification du pays et tout ce qui s'ensuit dans l'installation du régime communiste qui n'est pas à l'image de ce qu'on aurait pu espérer, mais qui est plutôt un régime répressif et totalitaire qui provoque du coup la fuite d'énormément de ressortissants vietnamiens, puis laotiens, cambodgiens de leur propre pays, aussi touchés par des régimes autoritaires ou génocidaires. Et donc revenir sur cette histoire 50 ans après, c'est tenter de retraverser ensemble, d'interroger ce qui s'est passé, ce grand mouvement de migration du sud-est asiatique vers l'Europe et vers l'Occident, parce que les États-Unis et le Canada ont énormément accueilli aussi de réfugiés, de revenir sur cette séquence historique et évidemment de la mettre en regard avec nos réalités d'aujourd'hui, puisqu'un des fils, un des postulats, c'est de mettre un peu en parallèle l'accueil, on va dire, exceptionnel qu'il y a eu à l'époque envers ces réfugiés du sud-est asiatique, la médiatisation, le fait que tout le monde disait de la gauche à la droite, il faut aider ces boat people, il faut aider ces gens, et l'indifférence qu'on a aujourd'hui face aux boat people d'aujourd'hui, que ce soit ceux et celles de la Manche ou de la Méditerranée. Évidemment, c'est quelque chose moi qui m'a frappée quand on a parcouru les images d'archives télévisuelles.
C'est ce qui rend saisissant finalement le fait que c'est aujourd'hui que vous en parlez, parce que du coup, on a le sentiment que c'est un remake, mais encore plus tragique, encore plus cynique que ce qu'ont peut-être vécu les boat people. Mais vous en montrez aussi, et je pense que c'est un apport important de votre pièce, toute l'ambiguïté de cette réception. Mm-hmm. Et je crois que au fil des histoires personnelles, on comprend toute cette ambiguïté. En tous les cas, on perçoit combien elle est importante.
Oui, pour moi, justement, l'histoire est à la fois simple et complexe. À l'époque, on est dans une période où on est encore dans un monde polarisé de la guerre froide. Le bloc occidental impérialiste, le bloc de l'Est avec ces régimes communistes qui se mettent en place dans plein de pays. Et donc dans ce monde polarisé de la guerre froide, évidemment, chacun compte ses pions. Donc l'accueil exceptionnel dont je parlais, il a aussi des raisons idéologiques, puisque c'est une façon évidemment de le fait que les Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens fuient ces régimes communistes qui se mettent en place. C'est bien un désaveu de ces régimes communistes et donc de cette idéologie. Et on va d'autant plus accueillir ces réfugiés. Et c'est aussi ce qui explique que les hommes politiques de droite, qui ne se sont jamais beaucoup mobilisés pour l'accueil des immigrés, des réfugiés, des exilés, là, sur cette séquence-là, disent « Ah non, on participe ». Et effectivement, on a des Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, et ainsi de suite, qui se mobilisent complètement pour aider ces réfugiés du sud-est asiatique. Donc c'est une séquence super intéressante, parce que ce qu'on essaie quand même de raconter, c'est évidemment de réaffirmer, nous, aujourd'hui et de tout temps, cette nécessité de l'accueil, en fait, des gens qui veulent, qui fuient leur pays ou qui veulent changer de pays, qui veulent venir s'installer en France ou ailleurs. Je pense qu'il faut réaffirmer cette nécessité de l'accueil, mais évidemment, interroger qu'est-ce qui se joue dans cet accueil, quelles sont les générosités authentiques, quels sont les angles morts, quels sont les arrière-pensées, les intérêts bien partagés. Et on essaie de le faire à la fois en donnant ce contexte historique, géopolitique, mais aussi en important en fait ces questions-là au sein d'une fiction qui est celle donc de l'histoire d'une famille française qui accueille une famille de réfugiés, de boat people vietnamo-laotiens.
Vous êtes sur Radio Boomerang, 89.7 en FM.
Alors, comment avez-vous trouvé justement cette dramaturgie, c'est-à-dire à la fois nous donner à écouter les journaux télévisés de l'époque, la manière dont était présenté le sauvetage des boat people, et en même temps les témoignages très individuels des anciens boat people, puisque la pièce commence par ça.
Bah, en fait, moi, en m'intéressant à cette histoire et en me documentant, il y a quelque chose de très, très multiforme.
Marine Bachelot en Guyenne.
Puisque d'une part, je suis allée effectivement chercher sur les archives de l'INA, j'ai lu des livres, des témoignages. Je suis allée aussi interroger d'anciens, anciennes boat people qui ont bien voulu me livrer des morceaux de leur histoire. Et en fait, quand je suis revenue un peu avec toute cette matière et que j'avais envie de la partager avec les acteurs et les actrices, au début, par exemple, le fait que je leur fasse écouter et retransmettre un peu en direct comme des passeurs-passeuses de parole ces fragments de témoignages de boat people, pour moi, c'était plus un exercice d'imprégnation. Et on s'est rendu compte de la force théâtrale d'avoir l'acteur ou l'actrice casque sur les oreilles qui entend le témoignage et qui le restitue en direct. On s'est dit, bon, bah, il y a quelque chose qui peut être assez fort. Je pense aussi que moi, j'ai un peu par éthique, puisque je suis dans une démarche documentaire, je me dis, ben, hop, l'entrée du spectacle, de nous faire juste plonger dans ces fragments de témoignages et dans ces paroles authentiques, on va dire, bah oui, c'est une première immersion. Puis voilà, je donne ensuite un contexte historique porté par le cœur des acteurs et des actrices. Et après, on peut plonger dans la fiction. Et dans la fiction, je prends la liberté de faire dialoguer les acteurs au plateau et effectivement des images d'archives télévisuelles qui elles regardent. Je pense que c'est aussi cette recherche, moi, des instances multiples du théâtre documentaire qui m'intéresse. Théâtre documentaire, théâtre documenté. Et je voulais qu'il y ait plusieurs, que la dramaturgie mêle plusieurs langages, un peu à l'image de la richesse de tous les matériaux qu'on a rassemblé. Et là, j'ai pas parlé non plus du travail sur les photos d'archives qui sont parfois filmées en direct au sein du spectacle.
Ce qui m'a frappé aussi, c'est l'importance que vous donnez au corps. C'est-à-dire que tout passe par le corps avant de passer par l'histoire. C'est comme si vous vouliez faire émerger une vérité encore plus profonde en parlant sans cesse de ce que les corps ont encaissé, de la manière avec laquelle les corps se placent dans l'espace. D'où vous vient cet intérêt pour l'histoire du corps, puisque même à un moment, il y a un épisode complètement incongru où la jeune femme dit à l'oreille de ses parents qu'elle vient d'être femme. Et donc, ça interroge sur cette importance que vous donnez au corps dans le trajet des êtres et dans l'histoire.
Je pense que pour moi, dont la préoccupation est très politique, je suis persuadée que la violence politique passe dans les corps et passe par le corps. Et qu'effectivement, ces corps en lutte, ces corps qui fuient ces régimes répressifs, donc déjà, ce sont des traversées absolument incroyables sur des bateaux de fortune, avec des équipages qui savent pas forcément naviguer pour atterrir espérer atterrir dans des camps de réfugiés, puis après attendre, et puis après arriver. Là aussi, qu'est-ce que c'est un corps qui a vécu au Vietnam, au Laos, au Cambodge, dans un tout autre climat, dans un tout autre contexte culturel, et qui arrive, dans les témoignages que j'ai eus, c'est ces arrivées où il pleut, il neige, il fait froid, tout est gris. On se retrouve à la campagne, isolé, dans des petites villes ou villages. En fait, je pense que faire passer l'histoire et faire passer la politique par la question du corps, c'est quelque chose qui, pour moi, rend les choses plus sensibles, plus partageables, et qu'effectivement, pour moi, c'est très important aussi la tenue des corps, puisque la famille vietnamo-laotienne arrive dans une famille accueillante, mais comment on se comporte corporellement, avec ses codes culturels, comment on trouve sa place, quelle est la place qu'on nous laisse, donc c'est des questions qui sont passionnantes. Et évidemment, j'interroge aussi la façon dont ces corps asiatiques, ces corps ont été représentés, médiatisés, dans des images que l'on voit et puis que l'on a en tête, sur cette aussi fabrication de la figure du réfugié à aider, à secourir, du pauvre misérable, malade, nu, dénudé, etc., etc., qui raconte aussi comment, en tant que blanc, en tant qu'occidentaux, il y a aussi cette chose de réaffirmer une espèce de supériorité et non pas de rapport d'égal à égal. Mais on aime bien, en fait, les corps à secourir, les corps à soigner, ce rapport, en fait, où on aime les corps silencieux, parce que ce sont aussi des corps qui ne parlent pas forcément, auxquels on ne donne pas la parole. On aime les corps des autres en Occident quand ils sont effectivement à secourir, à sauver, mais quand ils prennent la parole, quand ils revendiquent, quand ils deviennent des corps furieux, là, on les repousse. Et effectivement, on est sur ce moment où, jusqu'à présent, les Vietnamiens, c'était un espèce de peuple héroïque, résistant contre l'impérialisme américain, ayant battu en fait la France coloniale, donc une figure assez révolutionnaire. Il y a cette image-là. Et avec les Boat People, on bascule. Ce sont les corps asiatiques, sont des corps à secourir, à sauver. Donc là aussi, c'est une représentation qui arrange les dominants. Évidemment, dans l'histoire de ces deux familles, il y a un rapport structurel inégalitaire, puisqu'il y a la famille accueillante avec sa générosité, ses bonnes intentions, et la famille accueillie, qui évidemment se sent redevable, qui ne cesse de dire merci, qui tente à sa façon aussi de rééquilibrer le rapport. Mais ce sont aussi ces petits jeux de micro-pouvoir et de comment on gagne sa place, son territoire, qu'on essaie de faire jouer dans la pièce, sans partir sur des gros conflits, parce que je voulais que ça reste des choses assez subtiles, assez fines, et puis surtout qui est cette entente, comment on fait tenir en fait un foyer comme ça où il y a deux familles, comment ils arrivent à cohabiter, et ils y arrivent. Et ça, je pense que c'est aussi important de dire oui, on peut complètement vivre ensemble en prenant en compte la place de chacun, chacune.
Vous êtes sur Radio Boomerang, 89.7 en FM.
Vous avez choisi aussi, Marine Bachelot-Nguyen, de faire dérouler l'histoire de juin 79 à 2025. Vous aviez besoin de ce temps-là pour parler de cette histoire ?
Oui, disons qu'après il y a des grandes ellipses temporelles, mais en gros le gros de ma fiction se passe effectivement entre juin 79, ces reportages télévisuels là qui incitent tous les Français françaises à faire quelque chose pour les Boat People, jusqu'à l'arc de la fiction de la famille, c'est entre juin 79 et même 1981, l'élection de François Mitterrand. Et ensuite, oui, j'avais besoin d'écrire cette dernière scène qui se passe en juillet 2025 sur une plage dunkerquoise. Ça me semblait important de mettre en résonance aujourd'hui avec cette époque. Effectivement, on est à 45 ans, 50 ans de distance, et de retrouver les deux enfants qui plutôt cinquantenaires, soixantenaires, qui réévoquent et qui le passé, mais aussi le présent. Et l'émigration vers l'Angleterre sur ces small boats. Et puis c'est aussi une chose en me documentant, évidemment. Enfin, ça fait plusieurs années que j'ai appris que de nouveau, de façon très très discrète, il y a des migrations vietnamiennes. Donc ça me semblait intéressant aussi comme écho.
Et vous faites terminer le spectacle donc devant la mer et l'héroïne Mai. Parle de sa terreur de la mer, finalement. Et c'est très prenant, parce qu'en fait, tous les jeunes migrants que l'on accueille aujourd'hui ont cette même terreur de la mer. Et même quand ils sont parfaitement intégrés, qu'ils ont un travail, etc., si on leur propose d'aller à la mer, ils n'y arrivent pas. Et donc, c'est une touche de vérité assez inattendue, mais qui nous indique combien on est dans le présent.
Absolument, bah ça c'est moi des choses que j'ai retrouvées dans des témoignages de plusieurs personnes anciennement boat people qui effectivement ont un rapport avec avec la mer, monter sur un bateau, la traversée qui est voilà, qui reste très traumatique. Et ça fait complètement oui écho avec des réalités contemporaines. Enfin, je veux dire effectivement, on sait ce qu'on même des fois en se baignant, on voit bien ce danger de la mer et même voilà faire quelques dizaines de kilomètres sur l'eau dans un canot dans un petit bateau enfin oui la terreur la mort peut être très très proche donc c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez beaucoup d'anciennes boat people et effectivement pour des personnes qui ont traversé la Manche ou la Méditerranée mais oui et alors c'est là aussi je trouve que c'est intéressant parce que c'est ambivalent on utilise beaucoup de vidéos d'eau de mer etc qui peuvent être pour des personnes qui n'ont pas un trauma de l'océan ou de la traversée maritime, qui peuvent être effectivement très esthétiques, mais dont on sait aussi le potentiel traumatique pour des personnes qui ont vécu ces traversées et ces nuits sans fin. Et donc voilà, c'est cette ambivalence entre la force et la beauté aussi de la mer, de l'océan. Et est-ce que ça peut réveiller effectivement comme peur et comme traumatisme?
Cette pièce, Boat People, est la dernière création de Marine Bachelot Nguyen. Ses précédents travaux concernaient d'autres facettes de la mémoire et du présent des relations Vietnam-France. On y trouve une réflexion sur le post-colonialisme, les questions de genre et les questions de racisme. C'était Boat People, un reportage de Francine Augéret pour Radio Boomerang.